journal. Bonsoir Hélène Filly.
Bonsoir à tous. Feu vert du Conseil constitutionnel pour le pass vaccinal et de la Haute Autorité de Santé pour l'antiviral Paxlovid. Pour qui? Pour quand? La lutte contre le Covid, toujours en une de l'actualité. On y revient en détail dès le début de ce journal. La sentence est tombée dans le procès des sondages de l'Élysée. Claude Guéant condamné à 8 mois de prison ferme. Le tribunal a eu des mots durs, mais impératifs, se félicite l'avocat d'Anticor. Dans l'actualité encore, le groupe État islamique représente-t-il encore une menace? Double attaque meurtrière aujourd'hui en Syrie et en Irak. Valérie Pécresse met en scène sa réconciliation avec Laurent Wauquiez. Et puis 3 jours et 3 nuits de concert commencent ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique. C'est l'Hyper Weekend Festival, on vous dira tout. Oui, au téléphone sonne, Claire.
Eh bien ce soir, on s'intéresse aux courriers de l'Élysée, à ceux qui écrivent au président. Pourquoi le font-ils? Où arrivent leurs lettres et désormais leurs mails? Obtiennent-ils des réponses? Tous les présidents ont-ils accordé la même importance à ces courriers? Qu'en est-il maintenant? On verra tout cela avec nos invités, un professeur de sciences politiques, un sociologue du politique qui ont étudié de très près les questions et les réponses. Ils viennent de consacrer un livre à ce sujet, alors n'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000.
France Inter. Cette fois, il n'y a donc plus d'obstacle à l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Dès lundi, le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du texte. Alors, on va faire le point avec vous. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Pour ceux qui ont un schéma vaccinal complet, c'est simple. Le pass vaccinal, le pass sanitaire va se transformer en pass vaccinal sans qu'il n'ait rien à faire. Pour les autres, il y a quelques subtilités. Les non vaccinés d'abord. Ils ont une deuxième chance, Hélène.
Oui, ils obtiendront également un pass vaccinal immédiatement après avoir effectué une première injection avant le 15 février. Mais pour aller boire un verre ou assister à un concert, il faudra tout de même qu'il passe par la case Écouvillon pendant quelques semaines. Un test négatif sera en effet nécessaire jusqu'à leur deuxième injection. Une deuxième dose qui doit être effectuée dans le mois, sinon le QR code ne fonctionnera plus. Mais une seule dose suffira, Hélène, si les non vaccinés ont été infectés dans les 2 à 6 mois. Un assouplissement annoncé hier soir par Jean Castex. À l'origine, le pass vaccinal ne devait être actif qu'une semaine après une validation complète. Le but, c'est d'encourager les primo-vaccinations, de convaincre encore les 7% de plus de 18 ans qui n'ont pas encore tendu le bras. Chaque jour, ils sont entre 20 et 40 000 à finir par le faire. 1 million ce dernier mois, il en reste encore un peu plus de 4,5 millions à convaincre.
Et puis, il y a la question des adolescents. Qui est concerné?
Alors, les 16-17 ans sont concernés par le pass vaccinal, mais pour seulement 2 doses. Même si le gouvernement a annoncé hier qu'il ouvrait le rappel aux 12-17 ans, ils n'auront pas d'obligation à le faire pour que leur QR code soit valide. Les 12-15 ans restent, eux, sur le pass sanitaire. Il faut qu'ils prouvent une vaccination complète ou un test négatif pour pouvoir, par exemple, aller à la piscine ou se faire un cinéma.
Et je rappelle cette échéance, le 15 février, vous n'aurez plus 7 mois, mais 4 pour faire votre dose de rappel. Merci Hélène Chevalier. Le Conseil constitutionnel, je le disais, valide donc le dispositif. À l'exception des réunions publiques, des meetings, en pleine campagne électorale, le pass vaccinal ne pourra pas y être réclamé. La vaccination, on l'a compris, l'arme principale du gouvernement, mais pour lutter contre l'épidémie, il y a aussi des médicaments et la Haute Autorité de Santé vient d'en autoriser un nouveau. Bonsoir Véronique Julien.
Bonsoir.
Le Paxlovid, une pilule de Pfizer.
Oui, alors ça ne doit pas dispenser de se faire vacciner, précise la Haute Autorité de Santé, mais c'est clairement un outil de plus pour les plus fragiles, car c'est à eux que ce médicament s'adresse, aux immunodéprimés, aux malades du cancer, aux insuffisants rénaux, aux plus de 65 ans avec comorbidité, comme du diabète ou de l'hypertension. En cas d'infection, ces patients sont à risque et n'avaient pas vraiment de parade, surtout avec Omicron. Cet antiviral très attendu doit précisément empêcher l'aggravation. Il bloque en fait la réplication du virus dans l'organisme et il réduirait le risque d'hospitalisation ou de décès d'environ 85%. Il serait qui plus est efficace aussi contre Omicron. Autre atout, il est facile à administrer. 3 comprimés 2 fois par jour pendant 5 jours, à condition de les prendre dans les 5 jours qui suivent l'apparition de la maladie. Le fait que ce soit en comprimé va permettre, qui plus est, de le distribuer en ville, dans toutes les officines. Attention toutefois à quelques contre-indications. L'une des molécules de ce traitement peut interagir avec d'autres médicaments. En conséquence, tous les malades n'y seront pas éligibles, les insuffisants hépatiques notamment. 500 000 traitements sont déjà commandés en France. Les premières livraisons arrivent la semaine prochaine.
Le gouvernement a donc annoncé hier la levée des restrictions en deux temps au mois de février. D'abord, les jauges levées partout au début du mois et la fin du masque obligatoire en extérieur et puis les discothèques ensuite et le café debout au comptoir possible à partir du 16. Alors qu'on met du temps à passer le pic de contamination, les cas positifs à l'école y sont sans doute pour quelque chose. Selon le dernier avis du Conseil scientifique, près de 19 000 classes sont fermées, c'est un record. En tout cas, la cinquième vague aura un impact sur le système de soins, même s'il tient le coup au moins jusqu'au milieu du mois de mars, juge le Conseil. Entre 9 et 14 millions de personnes auraient déjà été infectées par le variant Omicron.
Et voici donc une nouvelle condamnation pour Claude Guéant.
8 mois de prison ferme pour l'ancien ministre de l'Intérieur, incontournable de la présidence Sarkozy. Claude Guéant, déjà en prison après sa condamnation dans l'affaire des primes en liquide. Cette fois, ce sont les sondages de l'Élysée qui lui valent une peine ferme. Reconnu coupable de favoritisme pour avoir commandé des sondages pour des millions d'euros sans appel d'offres, le tribunal a eu des mots sévères, rappelant l'exemplarité à laquelle étaient tenus les collaborateurs du président au sommet de l'État. Un jugement doublé d'une leçon de morale applaudie par Jérôme Carsenti, avocat d'Anticor, l'association qui a porté l'affaire devant la justice.
Il est venu rappeler ce tribunal l'exigence d'exemplarité, l'exigence de sérieux, l'exigence de probité, en disant que ceux qui avaient commis les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés aujourd'hui, finalement avaient discrédité la République, avaient discrédité la représentation nationale, avaient discrédité la présidence de la République. Donc ça, c'est très important. Et le tribunal a été effectivement efficace dans cette motivation et dans les sanctions qui ont été données. Avec des mots très durs, mais qui étaient, j'allais dire, impératifs. Ça me fait un bien fou, cette décision. Parce que cette motivation, elle vient nous dire que, puissants ou misérables, nous sommes tous responsables et nous devons tous être jugés à égalité avec, devant la justice. Mais la République, elle s'applique aujourd'hui dans sa plénitude.
Jérôme Carsenti avec Laurélie Caribe, les autres prévenus, hein, parmi lesquels Éric Buisson, dont la société a profité des contrats passés avec l'Élysée, écope de peine avec sursis, tandis que Nicolas Sarkozy a bénéficié dans ce dossier de l'immunité pénale présidentielle. Et puis en bref, la condamnation de celui qui est considéré comme le chef du groupuscule d'extrême droite, les Zouaves, Marc de Cacré-Valmenier, jugé pour l'attaque d'un bar parisien fréquenté par les antifascistes en 2020. Il est condamné à un an de prison ferme. L'image de retrouvailles à présent savamment préparées et mises en scène, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, longtemps ennemis jurés, et aujourd'hui côte à côte, tout sourire, au Puy-en-Velay, fief de l'ancien patron du parti. On est à moins de 3 mois de l'élection et la famille LR veut s'afficher unie. C'est un reportage signé Anne Souhaitement.
Bonjour à tous. On la voit régulièrement aux côtés de ses anciens adversaires, Xavier Bertrand ou Éric Ciotti. Alors quand elle arrive chez Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse le sait, l'image est attendue.
C'est un événement.
Pour trouver un terrain d'entente, la candidate et l'ancien patron du parti ont convenu de parler désertification médicale dans une maison de santé financée à 20% par la région, présidée par Laurent Wauquiez dans son département, la Haute-Loire.
Ce que dit notre directrice, qu'on est très loin de toutes les structures hospitalières.
Combien de temps l'hôpital ?
Oh, tu mets une petite heure.
Mais derrière l'annonce d'une mesure, la création de docteurs juniors, une dernière année dans un désert médical pour tout étudiant en médecine, Valérie Pécresse vient surtout répondre aux sceptiques, à ceux qui s'interrogent sur sa capacité à convaincre Laurent Wauquiez de faire campagne à ses côtés.
Je sais que ça vous dérange que la droite soit de retour, je sais que ça vous dérange peut-être aussi qu'elle soit totalement unie, mais on va gagner ensemble.
Gagner ensemble, Laurent Wauquiez renchérit et tente de balayer les doutes, d'autant que la ligne politique de Valérie Pécresse aujourd'hui n'est plus si différente de la sienne, décrypte son entourage.
Accueillir Valérie ici est un symbole. C'est le symbole de mon soutien et de mon engagement total aux côtés de Valérie. Parce que c'est la seule chose qui m'intéresse.
Une opération réconciliation millimétrée devant caméra, appareil photo et micro, mais sans possibilité pour la presse d'échanger réellement avec les deux ténors.
Reportage Anne Souhaitement, enjeu de campagne de tous bords politiques, le coût de la vie qui grimpe en ce moment particulièrement aux stations essence. Le gazole a franchi pour la première fois la semaine dernière le seuil d'1,60€ le litre, du jamais vu. Le chèque inflation ne suffira pas, c'est le ministre de l'économie lui-même qui le reconnaît aujourd'hui sur Public Sénat. Bruno Le Maire réfléchit à de nouvelles mesures.
On va y travailler pendant le week-end avec mes équipes. On va voir s'il y a des solutions supplémentaires qui sont nécessaires, qui sont possibles. Pour l'instant, je ne veux pas mettre de pistes sur la table. Je dis simplement que je ne reste pas les bras croisés en disant « bah écoutez, tant pis, les prix de l'essence sont hauts, débrouillez-vous ». Évidemment que non. Nous regardons ce qui est possible. Une fois encore, je ne ferme la porte à aucune solution. Je veux juste garantir que ce soit efficace, que ce soit pas excessif pour les finances publiques, et que ça aide surtout ceux qui n'ont pas d'autre choix, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre choix pour aller travailler que de prendre leur voiture et de remplir leur voiture avec du carburant.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'association Famille Rurale, elle, aimerait un chèque fruits et légumes dont les prix ont bondi de 9% en 2 ans, selon les données de son observatoire annuel.
À 19h10, on passe à l'actualité internationale, Hélène, avec ces attaques meurtrières du groupe État islamique en Syrie et en Irak.
En Irak, attaque d'une base militaire, 11 personnes tuées. Et en Syrie, les djihadistes ont pris d'assaut une prison pour libérer des prisonniers. Plus de 60 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des attaques simultanées qui ravivent les craintes d'une résurgence de l'État islamique, Christian Chesneau.
Cela fait déjà plusieurs mois que les signes d'un regain d'activité de Daesh sont perceptibles. Selon un rapport de l'ONU, les hommes de l'État islamique seraient encore une dizaine de milliers de combattants actifs en Syrie et en Irak. Et aujourd'hui, ils repassent à l'action pour faire libérer les djihadistes incarcérés dans des prisons administrées par les Kurdes. Les autorités kurdes qui affirment détenir quelque 12 000 djihadistes de plus de 50 nationalités, dont des Français. C'est la deuxième fois que les islamistes de Daesh tentent de faire libérer les leurs de cette prison de Hasakeh, une attaque avait déjà eu lieu en décembre dernier. Coïncidence ou pas, au même moment, de l'autre côté de la frontière, les djihadistes de l'État islamique ont mené une attaque contre une base de l'armée irakienne dans la province de Diyala qui a fait 11 morts parmi les soldats, dont un officier. Certes, Daesh n'est plus une menace existentielle pour les autorités de Bagdad, mais cette guérilla de harcèlement empoisonne la reconstruction du pays et empêche un retour à la normale.
Une frappe au Yémen contre une prison tenue par les rebelles. Au moins 70 personnes ont été tuées. L'attaque n'a pas été revendiquée. L'étranger, c'est aussi l'impasse du dialogue entre Américains et Russes sur l'Ukraine. Rencontre aujourd'hui à Genève. L'enjeu, c'est d'éviter une guerre. Les Américains posent leurs conditions, que Moscou retire ses troupes à la frontière ukrainienne. Et les Russes ont la leur, l'arrêt de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, la Roumanie et la Bulgarie en particulier. Les discussions vont se poursuivre. Et puis, c'est la fin de 30 ans d'exploitation gazière en Birmanie pour Total. Le géant de l'énergie français, Total Energy, acte son retrait aujourd'hui. C'était une demande des ONG de défense des droits humains. Après le coup d'État militaire, la junte accusée d'étouffer la contestation dans le sang. Mais quel est le coût pour le groupe français, Philippe Lefebvre ?
Eh bien, ce départ ne coûtera rien à Total Energy, car si le pétrolier français a versé durant ses 30 ans de présence dans le pays 230 milliards de dollars à l'établissement au titre des taxes de production, là, en revanche, l'entreprise qui avait déjà cessé il y a quelques mois l'exploration de nouveaux gisements offshore ne versera pas le moindre dollars de compensation au pouvoir en place. Et c'est bien ce qui risque de poser un problème de taille aux deux entreprises qui vont reprendre l'activité gazière, la Société Nationale d'Énergie Thaïlandaise et une autre entreprise contrôlée par l'armée birmane, des sociétés qui n'ont pas les moyens financiers et techniques de Total associé à l'américain Chevron. Donc, difficile pour elles de maintenir la production qui était jusqu'alors de 6 milliards de mètres cubes de gaz par an exportés pour les deux tiers en Thaïlande. Et c'est justement ce que souhaitaient les ONG, à savoir priver les militaires birmans au pouvoir de la manne gazière. Il faut savoir que le gaz rapporte chaque année plus d'un milliard de dollars à la Birmanie. C'est même la première source de revenus en devise du pays.
Philippe Lefebvre, une plateforme qui dégringole, Netflix, a-t-elle touché le plafond de verre de sa croissance ? Elle a du mal à recruter de nouveaux abonnés et chute à Wall Street. L'action perd plus de 20%. À Washington, Sébastien Paour.
Les investisseurs se sont habitués aux très gros succès, y compris fin 2021. La série sud-coréenne Squid Game, vue par les deux tiers de ses quelque 222 millions d'abonnés, plus d'un milliard et demi d'heures de visionnage. La dernière saison de La Casa de Papel, les films Red Notice et Don't Look Up, les plus regardés de l'histoire de la plateforme. Mais le début de cette année sera en deçà des prévisions. 2 millions et demi d'abonnés de plus attendus au niveau mondial, contre 4 millions sur les premiers mois. de l'an dernier. Et les prochaines grosses sorties ne sont prévues qu'à la fin du premier trimestre, fin mars, notamment la deuxième saison de Bridgerton. Plusieurs raisons pour expliquer cette mauvaise passe de l'entreprise californienne. L'inflation aux États-Unis qui oblige les foyers à faire des choix. La concurrence de plus en plus sévère. Hulu, Amazon, mais surtout Disney Plus et HBO Max. HBO Max qui fédère désormais près de 74 millions de clients. La concurrence aussi des jeux vidéo. Alors Netflix augmente ses tarifs ici aux États-Unis, 1 ou 2 dollars de plus par mois. La croissance du pionnier du streaming viendra peut-être du prix et plus du volume. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
C'est une piste de ski à nul autre pareil. Et deux Français ont réussi à la dompter aujourd'hui.
Kitzbühel en Autriche, plus de 3000 mètres de descente, des virages impossibles. On dit que c'est la piste la plus difficile et la plus dangereuse au monde. Mythique, donc épreuve de Coupe du Monde de ski alpin. C'est un Norvégien qui l'emporte aujourd'hui, mais juste derrière lui, deux Français signent l'exploit. Johan Clarel, doyen de l'équipe de France, et Blaise Gisendaner à Kitzbühel. Guillaume Batin.
L'hymne norvégien marque la victoire d'Alexander Amodkil 2, mais c'est le drapeau tricolore qui prend les deux tiers de l'écran géant au moment du podium, avec d'abord la deuxième place de Johan Claret comme l'an dernier.
Aus Frankreich, Johan Claret.
Bah, c'est juste fantastique, à 41 ans je repousse mon record de podium. J'aimerais quand même la gagner un jour, mais j'ai encore une chance dimanche, donc on va essayer d'y croire dimanche.
La troisième place est aussi pour un Français, le chamoniard Blaise Gisendaner, parti avec le dossard 43. Une performance qui a surpris tout le monde, à commencer par lui, à 30 ans, dont la meilleure performance est une quatrième place au Super G des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018.
Aujourd'hui, c'est mon 99e départ en Coupe du Monde, et je m'étais dit, l'autre jour, en regardant, je ferai mon 100e normalement dimanche. Je me suis dit, putain, je vais faire 100 départs et pas un podium. Moi, je regrette pas ma carrière, hein, même avant aujourd'hui, mais je me suis dit, putain, ça fait un peu chier quand même. Et puis aujourd'hui, bah non. Voilà, j'ai fait 3e à Kitz. Donc ouais, c'est le plus beau jour de ma carrière, c'est sûr.
Demain, deux Français pourraient aussi monter ensemble sur le podium du slalom, Alexis Peintureau et Clément Noël. À moins de 2 semaines des Jeux Olympiques de Pékin, l'équipe de France masculine de ski alpin compte pas moins de 5 skieurs capables de décrocher une médaille. Kitzbühel, Guillaume Batin, France Inter.
Le sport, c'est aussi le handball. Guillaume Gilles, le sélectionneur des Bleus, positif au lendemain de la victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas à l'Euro. Il manquera la rencontre face à l'Islande demain. Et puis à l'Open de tennis d'Australie, l'élimination de la tenante du titre, Naomi Osaka, et la qualification d'Adrian Manarino. Le Français a lutté près de 5 heures hein, face au Russe Karatsev. Victoire en 5-7. Il affrontera l'Espagnol Rafael Nadal en 8e. Et bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
On parle avec vous du tout premier festival de musique actuelle de Radio France. C'est l'Hyper Weekend Festival. Les premiers spectateurs arrivent hein, quelques étages en dessous de nous déjà parce que ça commence ce soir.
Oui, l'Hyper Weekend Festival qui investit Radio France du sol au plafond au 22e étage de la tour avec Joseph Sciano Di Lombo. Des concerts, des expositions comme celle qui dévoile les photos des studios de Boom Bass du groupe Cassius. Sa chambre d'ado a même été recréée pour l'occasion dans le hall de Radio France.
Ce soir, premier temps fort, la masterclass de Jean-Michel Jarre.
Oui, dans l'Agora, dans notre ancienne cantine, cafétéria, Jean-Michel Jarre présente dès ce soir et pour la durée du festival une création inédite, Oxymore, un concert immersif à 360 degrés qu'il voit comme le show de demain.
On a un champ de visuel de 140 degrés, mais on a un champ auditif de 360 degrés. Et finalement, la stéréo n'existe pas dans la nature, est un processus inventé par des petits malins dans les années 40 du siècle dernier pour créer artificiellement une notion d'espace entre le canal gauche et le canal droit. Mais en fait, aujourd'hui, la technologie nous permet de revenir à une écoute naturelle du son. Il s'agit d'une certaine manière de célébrer un peu les racines de la musique électroacoustique qui est née finalement dans cette maison. L'idée, le défi, c'était de composer en fonction de l'espace.
Jean-Michel Jarre qui ouvre le bal ce soir, c'est ce que je voulais dire. Et puis il y aura des nouveaux venus aussi ce week-end de la scène française qui rendront hommage dimanche à l'une des plus belles plumes de la chanson.
Oui, la chanteuse Loni fait partie justement de ces jeunes talents qui rendront hommage dimanche aux 30 ans de carrière de Dominica, une référence incontournable pour la jeune génération.
C'est vachement émouvant du coup de fêter ses 30 ans de carrière. Il a un côté colosse en fait. Et c'est ça qui me plaît, mais d'ailleurs je crois que c'est ça. Il a fait un album qui s'appelle donc La Fragilité, où il y a ce colosse qui accepte de se prêter au jeu, de se rendre sincère, donc forcément un peu vulnérable.
Ça, ce sera dimanche, Mathieu. Est-ce qu'il reste des places pour ce week-end ?
Alors, il reste quelques places pour Kiddy Smile demain et pour la soirée de dimanche, mais il faut se dépêcher.
Voilà, on se dépêche. Plus d'infos sur la programmation, les places et le reste, c'est évidemment sur franceinter.fr, l'Hyper Weekend Festival, jusqu'à dimanche à la maison de la radio et de la musique.
Merci beaucoup, Lenfili. On vous souhaite un hyper bon week-end et on va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Beaucoup de brouillard demain matin.
Oui, des brouillards qui seront même localement givrants, notamment dans la vallée de la Garonne. Dans le sud-ouest, justement, les brouillards laisseront place au soleil avant la mi-journée. Sur les Pyrénées, les Alpes et les régions de la Méditerranée, le soleil s'imposera dès les premières lueurs du jour, avec encore un peu de mistral et de tramontane. Sur les régions de la moitié nord, l'Auvergne et le Lyonnais, les brouillards se dissiperont aussi en matinée, mais le ciel restera bien nuageux l'après-midi. Quelques éclaircies arriveront à se développer. Ces éclaircies seront par moments assez belles. Sur la Vendée, le sud Finistère, entre l'embouchure de la Seine et la Côte d'Opale, ou encore vers la Franche-Comté et le bassin parisien. La couche nuageuse sera en revanche beaucoup plus compacte sur le Grand Est, avec même un peu de pluie, voire de la neige à très basse altitude en matinée. Et puis il va faire frais l'après-midi, avec des maximales atteignant seulement 2 à 9 degrés, 7 à 15 degrés autour de la Méditerranée. Et puis la nuit prochaine s'annonce très froide, avec des gelées nombreuses et parfois fortes.
Et pour dimanche ?
Eh bien on retrouvera à peu près le même découpage, avec des nuages sur la moitié nord se propageant jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, et une journée largement ensoleillée plus au sud. Le soleil s'imposera aussi sur les Vosges et le Jura. En revanche, quelques nuages pourront border les côtes méditerranéennes entre le Roussillon et le delta du Rhône. Les grisailles et les brouillards givrants du petit matin seront parfois lents à se dissiper. Sur la moitié nord, les nuages laisseront quand même filtrer quelques éclaircies. Sur le Finistère, par exemple, elles seront assez belles et les températures gagneront quelques degrés.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.